Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus sur le plateau de Studio Zef. Un œil ailleurs, c'est maintenant en direct avec mes camarades, les voyageurs immobiles, hein, comme d'habitude. Bonjour Alice.
Salut,
bonsoir
Véro.
Plutôt. Ça va?
Ça va bien. Ouais.
Bonjour Jérémy, à la technique toujours.
toujours
muet, qui veut pas causer dans le micro. Bon, on t'aura pas. Hein. J'ai bien l'impression qu'on va pas le piéger.
Je crois que c'est fichu.
Alors ce soir, on va voyager avec des invités qui sont venus en famille.
Ouais, on va arriver un peu aujourd'hui avec quatre pigeons voyageurs qui ont parcouru le Canada, l'Asie du Sud-Est et l'Australie. Donc deux adultes, deux enfants. C'était pendant 6 mois entre 2015 et 2016. Donc en fait, on a avec nous Cédric, Déborah, Timéo et Vasco. Et ils vont nous raconter leur périple tout à l'heure.
Ouais. Bonjour à vous.
Bonjour.
Bonjour.
Oui, il faut s'approcher un petit peu du micro, hein, faut pas hésiter. Mais avant ça, Alice, on commence par ton petit tour subjectif de la planète. Hein.
Tout à fait.
On est d'accord.
On est d'accord. On est parti.
Eh ben c'est parti.
Maurice.
Mmh.
On a l'antenne.
Mmh.
On a l'antenne.
Quelle heure il est?
C'est l'heure de nous informer.
Mmh.
En image, la semaine, Maurice.
Oh putain, je sais pas vous, moi, il y a plus la guerre, moi je suis démobilisé.
Notre petit tour de la planète totalement subjectif commence aujourd'hui par une escale au Kenya. Dans un court article du 22 février, Jeune Afrique nous apprend que la haute cour du Kenya sur la constitutionnalité des lois a reporté au mois de mai son jugement sur les lois homosexuelles qui datent de l'époque coloniale et qui prévoient rien de moins que 14 ans d'emprisonnement pour quiconque a, je cite, une connaissance charnelle contre l'ordre naturel et 5 ans d'emprisonnement pour les pratiques indécentes entre hommes. Alors, les organisations de défense des homosexuels ont lancé cette action en justice en 2016, c'est-à-dire quand même il y a 3 ans, pour prouver que ces lois sont anticonstitutionnelles depuis que la constitution kenyane, qui date de 2010, prévoit l'égalité des citoyens devant la loi. Et qui dit anticonstitutionnel dit donc des lois à abroger au plus vite. Mais la cour est débordée, que voulez-vous? La pile de dossiers est plus haute que moi, justifie un des juges qui travaille sur cette affaire. En plus, pas de chance, un de ses collègues est en congé. Et figurez-vous que les 3 juges dans le dossier sont assignés à de nombreuses autres affaires. Donc vraiment pas de chance, c'est une question de priorité.
Pour changer, on file au Brexit alors. Non.
On file
en Grande-Bretagne.
On n'a qu'à filer au Brexit, ça vaut bien le coup que je t'écrive des transitions. Eh ben oui.
Brexit, eh ben on peut inventer un nouveau pays,
ouais,
hein, qui s'appellerait le Brexit.
Ouais, voilà, c'est ça. Donc en effet, oui, quand tous les arguments sont épuisés, eh ben il faut savoir donner de sa personne. Et ce qu'a fait Victoria Bateman, économiste et chercheuse à l'université de Cambridge, au début du mois de février, en parcourant les plateaux de télévision nus pour expliquer visuellement que le Brexit va laisser la Grande-Bretagne à poil.
Shall we cut to the chase? Why is being naked so important?
So as an economist, I'm used to using words and equations in order to make an argument. And on the run up to the referendum, I must have penned thousands of words looking at how Brexit would be bad for Britain.
Alors dans cette interview à Good Morning Britain sur la chaîne ITV, Victoria Bateman explique, je cite, « En tant qu'économiste, j'utilise habituellement des mots et des équations pour faire une démonstration. Mais ce que je pense des grands sujets, et pas seulement du Brexit, est influencé par bien plus que seulement des mots. Alors je me suis dit que j'allais condenser ces milliers de mots en un message unique et simple. Le Brexit laisse la Grande-Bretagne à poil. » Et oui, il suffisait d'y penser et je crois qu'il fallait être anglaise pour y penser.
Oui, mais tu nous emmènes voir d'autres personnages subtilement décalés puisqu'on va en Belgique.
Subtilement décalés, oui, c'est le moins qu'on puisse dire. En effet, on traverse la Manche et on arrive en Belgique car Courrier International nous a appris le 20 février que l'Allemagne continue de verser des pensions complémentaires pour fidélité, loyauté et obéissance au Troisième Reich à 27 Belges ayant collaboré avec les nazis, selon la promesse d'Hitler faite en 41. Alors, une façon de les indemniser hein, pour leurs années passées en prison en Belgique pour justement faite collaboration. Alors, il se trouve que la Belgique n'a jamais obtenu le nom des 80 000 bénéficiaires de ces pensions, si bien qu'en plus, le fisc belge n'en a jamais vu les retombées. La Libre Belgique précise ironiquement que ses pensions, qui vont de 425 à 1275 euros, sont largement supérieures aux indemnités versées par l'Allemagne aux déportés et victimes du travail obligatoire, qui perçoivent, eux, une cinquantaine d'euros par mois. Alors, outre l'idée de mettre fin à ces pensions, les députés belges espèrent bien obtenir la liste des pensionnés pour les taxer comme il se doit. Alors, à noter que la situation serait identique en Grande-Bretagne où d'anciens SS vivraient tranquillement aux frais des lenders allemands. Bon, il semble que le grand ménage n'ait pas tout à fait été terminé.
On reprend l'avion pour un vol vers la Corée du Nord.
Oui, et là, c'est l'Express qui nous apprend que 90 000 bouteilles de vodka russe à destination de la Corée du Nord ont été interceptées par la douane néerlandaise le 22 février dans le port de Rotterdam. Alors elles étaient pourtant bien cachées sous la coque d'un avion, lequel était caché dans un container sur un navire chinois. Le problème, c'est que donc la Corée du Nord fait l'objet de sanctions internationales imposées par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Alors bon, l'histoire pourrait s'arrêter là. Ce pourrait être une banale histoire de produits de contrebande. Sauf que quelques sources laissent entendre que les dites bouteilles de vodka auraient été destinées à Kim Jong-un et à ses chefs militaires. Alors les douanes néerlandaises ont retweeté l'info sortie dans le journal local sans pour autant la confirmer.
Allez, santé. On termine notre petit tour à Gaza.
Ouais, enfin c'est plutôt là sur Hello Asso que je vous propose d'aller conclure ce petit tour de la planète pour financer un projet qui s'appelle Gaza Stories Palestine. En fait, c'est un projet de webdoc hebdomadaire sur Gaza. Et là où c'est intéressant, c'est que c'est réalisé par des Gazaouis. Qui sont vraiment sur place et qui permettraient d'envoyer de l'info régulièrement. Donc c'est sur Hello Asso, ça s'appelle Gaza Stories Palestine et on peut participer à partir de 20 euros, ce qui me semble tout à fait raisonnable.
Pull my mean, pull my mean, la 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 la, pull my mean, the fat.
Ailleurs.
Des nouvelles du monde.
Un œil ailleurs, exactement. C'est sur Studio
elle est,
Zef.
Elle est très très curieuse, c'est, cette virgule. Elle, mais
en fait,
que se passe-t-il?
Je pense qu'il manque un bout.
Vous êtes bien sur Studio Zef. Ah, puis si on réécoutait un peu de musique.
La face A de...
qui dure 20 minutes. De quoi, justement?
Qui dure 20 minutes. Alors, d'un groupe sénégalais qui s'appelle Orchestra Baobab. Donc, c'est ce qu'on vient d'écouter. C'est bien. Hein, c'est, on peut danser, on peut chalouper. Voilà, chercher le mot. Eh bien, on va maintenant s'entretenir avec nos invités qui ont fait, non, pas le tour du monde. Hein, pas encore.
Non, pas encore. Ah, quasiment quand même, avec vos différentes expériences. Oui, parce qu'on dit toujours, qu'il faut voyager tant qu'on est seul ou enfin tout au moins en couple, parce qu'avec des enfants c'est impossible. Eh bien non, figurez-vous. Déborah Le Calvé et Cédric Trestard ont embarqué Timéo, qui à l'époque avait 6 ans, et Vasco, qui en avait 3, pour un parcours de plusieurs milliers de kilomètres entre septembre 2015 et février 2016. Alors bon, Déborah et Cédric n'étaient pas vraiment des néophytes en la matière, puisqu'ils étaient déjà partis un an, enfin même 13 mois, en 2007-2008 pour un périple au long cours, et puis bon, sans compter leurs nombreux voyages un peu partout dans le monde les années précédentes. Mais là, embarquer deux petits bouts, c'était quand même une autre affaire. Donc merci à tous les quatre, et ça c'est vraiment super que vous soyez venus en famille, pour nous raconter votre aventure. Alors avant tout, c'est venu comment cette idée de voyager en famille ?
Bien, je pense qu'en fait le premier voyage à deux, on s'est dit qu'il fallait absolument, quand nos enfants seraient en, pas en capacité, mais disons pouvoir s'ouvrir, voilà, à d'autres cultures, de les emmener et d'essayer de vivre un autre rythme aussi. Voilà, c'était aussi la volonté de couper un peu le rythme. Voilà, de la vie au quotidien, et c'était vraiment c'était peut-être cet objectif là aussi qui était aussi dans la balance du voyage, plus que
ouais.
Du voyage, voilà.
Et c'est alors, c'est quoi justement, c'est intéressant, c'est quoi ce rythme du voyage? Vous qui avez beaucoup voyagé.
C'est celui qu'on se donne, en fait, et pas celui qu'on s'impose des fois aussi, d'ailleurs, hein, mais qui nous est aussi imposé par les activités professionnelles. Ou... Voilà, donc c'était nous, ce qui nous plaisait de partir plus longtemps que des périodes de vacances classiques, on va dire, c'était de se dire si on veut rester là, on le fait. Si on veut avancer plus vite, on le fait. Si voilà, on s'était donné un objectif, enfin un objectif, pas d'objectif d'ailleurs, mais on s'était donné 3 pays mm-hmm. avec le temps des visas à chaque fois, voilà, le temps qu'on nous offrait.
Vous n'aviez pas tous vos billets d'avion parce que vous êtes parti du Canada, enfin vous êtes d'abord parti au Canada.
Oui.
Et vous avez terminé en Australie, hein, c'est bien ça, via Thaïlande
et Birmanie.
Et vous êtes parti en ayant tous vos billets ou vraiment vous faisiez au fur et à mesure?
Alors juste les billets, la Birmanie, on s'est laissé la possibilité, enfin on savait pas trop si on allait y aller ou pas. Lors de notre premier voyage de 13 mois, en fait, on avait été empêchés pour diverses raisons d'y aller. Donc on savait pas trop, c'est assez fluctuant quelquefois. Donc on s'était laissé cette possibilité-là. Donc là, on a pris les billets au dernier moment pour la Birmanie. Mais on avait juste nos 3 billets des 3 pays.
D'accord.
Et l'hébergement en arrivant à l'aéroport, et c'était tout.
D'accord.
Voilà.
Et alors, donc voilà, vous partez de Paris. Donc première étape, c'était quoi ?
Canada, Montréal.
Montréal.
Donc là, c'était une étape un peu familiale parce que mon frère vivait à ce moment-là à Montréal. Donc c'était aussi, je ne sais pas si ça aurait d'ailleurs été une destination au départ choisie. Elle a été un peu influencée par.
L'occasion.
Voilà, c'était l'occasion. Et puis Canada, pour le coup, on y est resté deux mois et demi peut-être.
D'accord.
Et donc on venait régulièrement voir mon frère à Montréal, on faisait une sorte de petite fleur. Voilà, on allait un peu plus loin à Québec, on revenait. Et puis après on est allé un peu plus loin, on revenait. Comme c'était leur première expérience aussi, on voulait tout doucement, voilà.
Bien sûr.
Essayer d'avancer tout doucement. Et puis au final, on a dû partir 3 semaines, revenir un tout petit peu à Montréal et après partir sur la côte ouest.
D'accord, vous avez traversé, vous avez fait un saut en avion qui vous a emmené directement sur la côte ouest.
Les distances étaient trop importantes en voiture. D'accord. Donc là, on a pris un petit saut d'avion, oui.
D'accord. C'était à quelle période, là, où vous étiez à Montréal ?
Montréal, on y est resté de septembre, tout le mois de septembre, octobre, un mois et demi. Enfin, on a fait les maritimes, en fait, jusque New Brunswick et puis l'île du Prince Edward.
Alors, qu'est-ce que c'est les maritimes ? Tu peux nous expliquer ?
C'est tout ce qui part de Montréal et qui va vraiment jusqu'à la côte, en fait. Donc, c'est différents états qui jalonnent, en fait, cette côte atlantique. Mm-hmm. Donc, il y a la partie francophone qui est un tout petit peu plus connue. Et puis après, plus connue. Et après, cette île du Prince Edward, qui est anglophone et qui est aussi magnifique. Donc, voilà,
et du coup, vous y étiez à la bonne période, le fameux été indien.
On l'a bien eu, l'été indien.
Ouais, ouais. Vraiment, avec des couleurs qui doivent être absolument dingues.
Ouais. Et puis on a même eu un mois de septembre exceptionnellement chaud. Alors après, l'exception dans le climat devient un peu
la règle.
La règle. Mais on avait eu un mois de septembre très chaud.
D'accord. Et alors après, côte est, donc côte pacifique, c'est très très différent.
Oui. Enfin, différent. Je sais pas, Cédric, si tu trouvais ça.
Oui, dans le climat déjà. Oui.
Ouais. C'est-à-dire.
De Montréal, il neigeait.
Oui, ah ouais. C'est ça. Vous entriez dans l'hiver en fait.
Et puis Vancouver, en fait, c'est un peu. On pourrait le comparer à Brest chez nous, c'est une ville plutôt avec un climat tempéré où il fait une dizaine de degrés même en saison froide en fait.
D'accord.
Donc voilà, la neige est sur les sommets derrière, mais la ville reste, il y a rarement de la neige en fait sur Vancouver.
Donc vous êtes parti au début de l'hiver et limite vous êtes retourné un peu à l'automne de l'autre côté en fait.
C'est ça. On a connu un tout petit peu de neige un peu en rentrant dans les terres, mais à Okanagan, mais c'était tout. C'est vrai que Vancouver c'est doux. C'est...
Ouais.
Et puis on est dans le Pacifique, donc c'est ouais, c'est une autre ambiance quand même.
C'est ce que j'allais dire. Vous êtes resté combien de temps du coup sur la côte est, sur la côte ouest, pardon,
un mois et demi, et on est resté un peu moins d'un mois sur la côte est.
D'accord. Et alors, il y a un changement de mentalité. Alors, déjà, c'est complètement anglophone.
Oui.
Ça, c'est sûr. Première grande différence. Oui. Mais dans la façon de vivre, est-ce qu'on note des différences
Alors, Vancouver, c'est quand même une grande ville. Donc, ouais. On reste quand même sur
des mégalopoles.
Oui, voilà. Quand on est dans les Maritimes, c'est plus rural, quand même, plus... Il y a plus de campagne, on est, c'est un peu différent. Je suis pas sûre qu'il y a moi je les trouve cool. Enfin voilà, c'est anglo-saxon, c'est quand même. Moi je les trouvais assez cool. C'était une ambiance. Ouais. Et puis nous on avait décidé en fait de voyager. On a emmené des trottinettes.
D'accord.
En fait dans nos bagages avec des sacs qui les portaient. Donc, on aime bien utiliser les transports en commun, parce que ça fait partie aussi des échanges. Mais on avait, Vasco ayant 3 ans pour visiter les villes, il fatigue,
bien
donc
sûr.
Le porter, c'était pas, puis pas de poussette, c'est sûr. Donc, on avait une trottinette à 2 places. Donc, il avait un petit marchepied devant nous et on voyageait. Donc, en fait, ces trottinettes, c'était trop fun, en fait. Combien de fois on a dit c'est trop fun? Et il découvrait la trottinette familiale et voilà, on a eu des échanges assez cool par rapport à cette
D'accord,
trottinette.
Ça permettait en fait, ouais, vous étiez interpellé finalement ouais. par les Canadiens
ouais,
par
tout à
rapport
fait.
À ça.
Ouais. Donc après c'est ouais, c'était la mentalité, ça reste quand même une mentalité européenne ou
européenne,
européenne ouais. occidentale.
C'est pas influencé par les États-Unis à cet endroit-là.
Moi, j'avais un peu peur de ça. C'est vrai que le Canada, on y est allé parce que mon frère y vivait, mais pas tant que ça. J'ai pas trouvé. Cédric, non. Pas non pas.
Et alors, je suppose qu'on voyage pas de la même manière avec des enfants, enfin entre adultes et avec des enfants. Je suppose que on prend peut-être moins de risques. Enfin, je sais pas ou pour la fatigue. Qu'est-ce que ça change que donc vous vous déplacez en transport en commun dans un cas comme dans l'autre. Mais voilà, en termes de logistique, qu'est-ce que ça implique d'être avec 2 petits enfants?
Bien. Alors, je pense que déjà, ce qui nous, on avait vraiment pris appui de notre premier voyage de 13 mois, on s'était effectivement dit qu'il fallait prendre le temps, et encore plus avec des enfants, parce que ça, eux, ils ont besoin aussi de se poser, ils ont besoin d'échanger. Ils avaient besoin de rencontrer des jeunes enfants et ça
ah
ils
oui
nous demandaient ouais,
d'avoir des copains,
d'aller dans un parc et en fait ils nous demandaient souvent d'aller dans un parc, d'aller voir de jouer avec des enfants. Donc après ils avaient au fur et à mesure du voyage créé des stratégies avec des jeux pour essayer de voilà d'aller au contact des enfants.
C'est ce que j'allais dire parce que j'imagine que la maîtrise de l'anglais était encore tout à fait relative.
Oui, ils essayaient. Ils ont essayé un peu le thaïlandais ils ont découvert par exemple le Uno, c'était assez oui. facile, voilà, le code couleur et chiffres, c'était voilà. Donc ils essayaient de trouver des jeux qui pouvaient accrocher avec d'autres enfants.
Et les autres enfants étaient réceptifs du coup
ouais.
quand ils les voyaient arriver?
Alors plus on va dire en Asie.
D'accord.
Voilà. Mais dans les parcs, ils arrivaient toujours à jouer. Voilà, ça c'est, je pense que c'est universel, une balançoire, un toboggan.
Ouais, c'est ça. Le Uno est universel. Hein.
Le Uno est universel, c'est vrai. Mais donc voilà, ce qui a peut-être changé, nous entre 2007 et 2015, c'est Internet en fait.
Ah oui.
Nous, on arrivait quand on a fait notre premier voyage avec des guides.
Alors,
dans la ville.
Tu peux nous rappeler juste le trajet que vous aviez fait en 2007-2008 pendant 13 mois?
Alors, c'était départ de Moscou.
D'accord.
Donc, on avait... Et le billet d'avion suivant, il était en
Indonésie.
En Indonésie. Donc, d'accord. Après, il fallait se débrouiller jusque-là.
Ah oui. Et après, c'était tout ouvert. Vous aviez laissé... C'était le champ des possibles.
C'est exactement ça.
D'accord.
C'était aussi de se laisser le temps de voyager.
Ah oui, vous ne saviez pas où vous iriez
On avait une idée.
Oui, mais on n'avait pas les billets. C'était un peu en fonction...
Le seul billet qu'on avait, c'est un bout de transsibérien. Parce qu'on ne voulait pas aller jusqu'à Vladivostok, donc on était allé jusqu'à Irkoutsk. Forest, qui est le lac Baïkal. Et donc, et le lac Baïkal, et après, on est redescendu Mongolie.
On a un petit vent dans les micros.
Un petit problème technique.
Voilà, c'est ça, mais on va passer outre, on va essayer de continuer.
On avait donc, c'était donc Russie jusqu'au lac Baïkal. On a bifurqué après sur la Mongolie, la Chine. Après, on est descendu sur... c'était quoi après? Laos, Cambodge, Thaïlande, Malaisie, Indonésie.
C'était donc... plus l'Asie du coup.
Oui.
Et après, vous étiez rentrée directement à Paris.
Enfin, pas du tout. Non, ça c'était une partie.
Ah oui, d'accord.
Et donc après, on est parti sur. Cédric, après, c'était quoi?
La Nouvelle-Zélande.
Nouvelle-Zélande. Australie, Nouvelle-Zélande.
Et l'Australie, ça va.
D'accord.
Et l'Inde. Et on a fini par l'Inde et le Népal.
D'accord. OK. Voilà. Donc voilà. Ça nous resitue comme ça. Voilà.
Okay. On est rentré de Bombay, en fait.
OK.
Voilà. Mmh. Ou New Delhi, plutôt. Voilà. On a fait un New Delhi-Paris 13 mois après.
D'accord.
Voilà.
Très bien. Comme ça resitue un peu. Donc, tu disais, voilà, par rapport à ce premier voyage...
C'est ça. Donc, on avait nos guides, plus ou moins routards ou lonely. Et puis, on arrivait souvent après les bus où on se séparait. On se disait, le premier qui trouve un hébergement sympa, pas cher, on se retrouve à peu près là.
Ah ouais, d'accord.
Et on revenait avec, j'ai trouvé ça à tel prix. OK, on posait nos sacs. Et puis après, on courait chercher les marchés pour manger.
D'accord.
Et là, on s'est dit...
Ouais, je suppose qu'avec des enfants, on va un peu moins gérer à l'arrache comme ça.
Voilà.
Ouais.
Donc en fait, on avait quand même envie de pas trop programmer. Donc on arrivait à trouver des hébergements par Internet. Et d'ailleurs, même beaucoup de guest house nous disaient, passer par Internet, d'accord, c'était plus facile. Donc en fait, Internet, on réservait de cette manière-là.
Ça permettait d'anticiper un petit peu et d'arriver dans des conditions plus confortables que à deux.
Et puis Internet, maintenant, c'est partout, dans des petits coins reculés. Enfin, donc on arrivait à avoir des connexions partout qu'avant. Enfin, avant, j'ai l'impression
d'avoir un temps passé. Non, mais c'est vrai que c'était finalement il n'y a pas si longtemps que ça, parce que ça remonte à 10 ans finalement, 2007.
C'est ça, et on allait dans des cybercafés. Maintenant, ça n'existe plus. C'est tout le wifi.
Oui, bien sûr. Et justement, en termes de logement, donc, est-ce que le fait de voyager avec des enfants, choisit des logements un petit peu différents aussi, un peu plus confortable, ou est-ce que ça, pour vous, ça n'a rien changé?
Un peu plus, peut-être. Honnêtement, il faut être...
Avec Internet, on peut choisir.
Oui.
On avait aussi une offre différente.
Ouais.
Là, dans les villes, on était à la sortie du bus, on descend du bus. Alors, souvent, il y avait quand même des gens, des rabatteurs qui arrivaient avec la carte de l'hôtel.
À la sortie, à la descente du bus.
Qui nous faisaient visiter des chambres. C'était aussi c'était une autre solution, mais... Là, on a la possibilité avec Internet d'avoir des choix.
Et de voir si c'est adapté pour les enfants ou pas.
Enfin, voilà. Tout était beaucoup plus facile.
Ouais. Et alors, en transport, tu dis à la sortie du bus, vous avez emprunté les trains. Parce que on s'était arrêté au Canada. Donc après, vous avez traversé le Pacifique et puis vous êtes arrivé en Thaïlande. Je suppose qu'après, les conditions sont peut-être un peu différentes aussi entre le Canada qui doit être... relativement confortable, puis la Thaïlande, la Birmanie, c'est peut-être un peu plus rousse.
Bangkok, ça va. Après, on est parti un petit peu dans une île se poser. Puis, c'est la Birmanie qui est quand même un peu plus rousse, on va dire. Où là, en plus, on a fait un voyage de bateau. Donc, on a rallié, c'était quelle ville
En même temps, bravo pour la mémoire, parce que ça remonte à quelques années. Donc,
on avait rallié deux villes avec on appelait ça un slow boat. Donc, alors il y a les speed boats et les slow boats. Et on s'est dit, nous on prend le slow boat.
Alors, le slow boat, du coup, on dort dessus?
C'est ça.
D'accord.
Et là, on était vraiment avec.
C'est pas que pour les touristes, c'est pour les
amis. Il y en a forcément, mais il y en a moins que sur des speedboats. On est toujours un peu speed.
En voyage.
Après, nous on a le temps. On avait le temps. Après, je me dis, si j'ai 15 jours, 3 semaines, peut-être
forcément
que j'irai plus vite aussi. J'en sais rien. Nous, c'est vrai qu'on avait le temps. Donc, la Birmanie, c'était un petit peu plus, un petit peu plus roots, mais le sourire et l'accueil des gens est tel que c'est pas très, très, très grave. Et je crois qu'ils n'ont jamais eu autant de cadeaux, de nourriture sur les marchés, fallait même faire attention parce qu'en fait, ils n'ont pas eu l'habitude. Donc, les filles, notamment les mamans ou les jeunes filles, les prônaient.
Ah oui, ils auraient pu se faire embarquer.
Non, ils ne seraient pas fait embarquer. Non, mais c'est vrai que ce n'est pas une habitude.
Oui,
qu'on
bien
a
sûr
chez
qu'on
nous.
A nous. Ouais, ouais, tout
donc,
à fait.
C'est vrai que plusieurs fois, avec les couleurs de Tanaka, enfin, ce n'est pas du Tanaka, si, c'est ce qu'ils mettent sur les joues.
Sur les joues, oui.
Donc, ils en ont eu plus d'une fois. Avec des gros bisous. Oui, puis on avait trouvé aussi. Au bord du lac Inley, on avait une petite guest house que de filles, en fait. C'était géré que par des femmes. Et là, je crois que c'était les rois du monde.
Bah oui. On se fait une petite pause musicale et puis on revient sur votre périple.
Nouvelles du monde.
Il y avait la musique cette fois-ci, Lilon. Eh bien oui, toujours un œil ailleurs. On continue notre entretien avec les voyageurs qui ne sont pas immobiles. Hein.
Non, ouais. Heureusement qu'il n'y a pas que nous.
Parce qu'il n'y a pas que nous.
Sinon, le monde ne bougerait pas beaucoup. Oui, on parlait de voyager avec des enfants. Les enfants allaient dans les parcs. Je suppose qu'aussi, en termes de rencontres, c'est peut-être un peu plus facile que quand on voyage à deux. Ça change quelque chose.
Le contact est plus rapide, peut-être plus direct. Voilà, et puis les gens viennent peut-être un petit peu plus directement.
Parce que ça doit intriguer, j'imagine, un couple, enfin une famille européenne ou pas d'ailleurs, peu importe, mais avec deux petits enfants.
Oui.
Bon, disons plutôt dans les pays d'Asie, ouais. Oui, puisque le Canada, ça. Et l'Australie, c'était pas le même contact avec les gens. Mmh. Par contre, sur l'Asie, les marchés.
Ouais.
Les marchés avec les enfants, c'est une belle expérience. On part avec un panier vide et il se remplit au fur et à mesure du marché.
Sans rien, sans avoir rien dépensé.
On traverse le marché et se retrouve bien rempli de tomates, de fruits, d'ananas. je crois que ça les a marqués, les enfants.
Mmh, ouais, c'est ça. Ouais.
Mais c'est aussi peut-être votre mode de voyage aussi, parce que si vous étiez en camping-car, le contact est pas, c'est pas pareil quoi quand on voyage.
Oui.
On peut rester dans un bocal. Je veux dire, à l'autre bout du monde, on reste dans son bocal. Hein. L'idée aussi, c'est que vous avez pas des choses entre les gens et vous quoi.
Non, c'est sûr. Hein. Après, c'est vrai que aller sur un lieu de marché, forcément, ça amène les échanges. Ouais. Donc, et nous, c'est vrai que c'est ce qu'on recherche. Et ça a toujours été, depuis nos premiers voyages, les marchés. C'est toujours le lieu de vie où on se sent, où on se pose assez facilement. Et on avait envie, du point de vue du développement de tous les sens, en fait. Tout est sollicité, la vue, l'ouïe, l'odorat. Donc c'était... et je crois qu'ils en gardent vraiment un souvenir, des souvenirs importants. Et c'était cette notion de partage qui nous ont vraiment... ils revenaient, ils nous disaient, mais pourquoi... Enfin, ils nous disaient, pourquoi ils nous donnent tout le temps des trucs?
Ah oui.
Et je leur dis, c'est comme ça, oui, mais pourquoi? Je dis, faut-il une raison? Mais c'est vrai que ça les intriguait.
Ouais, oui, puis c'est pas forcément fréquent en France. Enfin, je sais pas si vous faites le marché hebdomadaire, mais.
Voire même inexistant.
Voilà,
hein.
C'est ça. C'est pas la même démarche.
Et pourtant, c'est pas, c'était pas les gens les moins, voyez, les.
Ah oui, mais j'imagine que c'est pas les gens les plus riches qui vous donnaient, bien sûr. Ça, c'est toujours pareil. Mmh.
Mmh. Et à contrario, justement, vous n'avez pas été sollicité à l'inverse. Hein, c'est-à-dire, par des. Vous n'êtes pas passé, par exemple, dans des quartiers. Où il y avait pas mal de pauvreté, on vous a pas sollicité pour donner des trucs, non, on vous a pas demandé de l'argent, on vous a pas.
Non, dans les pays, disons de la Thaïlande et la Birmanie, c'est vraiment des pays. C'est pas comme l'Inde ou
même
la Chine où on pouvait éventuellement être sollicité. Mais là, sur l'Asie,
du tout,
on n'a pas été sollicité.
D'accord. Vous êtes resté combien de temps entre Thaïlande et Birmanie?
Bonne question.
Alors, on est arrivé en Thaïlande, ça devait être début décembre.
Ouais.
Et on est reparti.
On est arrivé le 31. Plus longtemps, Cédric.
Ah oui, plus longtemps, non. Oui, on est arrivé le 10 novembre en Thaïlande, c'est ça. Et puis, on est reparti en 30 décembre.
On a fait le passage de la nouvelle année en arrivant en Australie.
En arrivant en Australie.
Mais on a fait entre-temps la Birmanie. C'est-à-dire que la Thaïlande et la Birmanie sont relativement proches. On peut les passer maintenant en frontière terrestre. La frontière terrestre était ouverte.
Mm-hmm.
Nous, on avait fait le choix d'y aller en avion parce que les bus, c'était quand même plusieurs dizaines d'heures.
Ouais. Donc là, pour le coup, avec des enfants, on va le faire moins spontanément.
Oui.
Et puis, si c'était pas non plus encore... elle venait de s'ouvrir, la frontière, en fait, et c'était pas complètement sécurisé non plus. Donc, on avait préféré... on a dit, on va prendre l'avion. Et puis, donc, on est parti 23 jours, je crois, en Birmanie. On a fait un tour et on est revenu en Thaïlande pour finir 5-6 jours en Thaïlande et repartir sur l'Australie ensuite.
Et alors, l'Australie, vous aviez un périple prévu? Comment ça s'est passé, l'Australie?
Alors, ça, c'était un tout petit peu plus, plus préparé. Voilà. Mm-hmm. Parce qu'on avait loué pour le coup un petit camper van et on s'était limité. À l'appareil, les distances sont telles que on a Timéo qui est un fan d'insectes et de bébêtes. Mm-hmm. Et donc on s'est dit on va aller dans la partie du Queensland, en fait. C'est celle qui est le plus au nord de la côte est. Et donc c'est un peu plus tropical et donc il y a une faune, une flore complètement dingue. Et on s'était limité à cet état,
d'accord,
du Queensland.
Et pour prendre le temps, pour le coup.
Oui, pour prendre le temps. Et puis on
ça
a fait quand même...
dans la carte, ça doit faire 2000 km.
Ah
déjà.
Oui, d'accord, oui. Petit état.
Petit état.
Mais c'était la continuité aussi de notre premier voyage, puisqu'on était allé en Australie la première fois et on était arrivé donc dans le sud, dans le sud-est, à Melbourne.
Oui.
Et on était remonté jusqu'à Brisbane. Et là, on s'est dit, on va faire de Brisbane à Cairns. donc remonter, bah, aller faire la dernière partie qui manquait. Mais on l'a fait dans le sens inverse, c'est-à-dire du nord vers le sud, donc de Cairns à Brisbane. Et oui, le fil conducteur, c'était la recherche d'insectes, la recherche d'animaux.
D'accord.
Et ça a été des jeux de piste.
Vous avez dû être servi quand même.
Pas tous les jours, mais par semaine, il y avait trois recherches systématiques d'animaux rares.
Et du coup, il y avait un petit côté pédagogique avec les enfants, ou c'était ludique, enfin, vous n'aviez pas d'arrière-pensée
Non, c'était ludique. Puis c'était après, on a fait quand même, on a fait des sanctuaires de tortues. Et en plus, ils sont aussi un peu impactés par tout ce qui est réchauffement climatique et tout ça. Donc, quand on va dans quand on visite un musée ou quand on avait fait des aquariums, mais comment ils appelaient ça en bord de, enfin, il y avait un hôpital
des tortues.
Enfin voilà, ils axent quand même beaucoup sur
l'environnement, en fait, la faune, la flore, la protection
de plus en plus. Donc c'était, il y avait quand même voilà, et on a quand même aussi, on avait un discours un peu orienté quand même.
Oui. Mais je suppose que c'est pareil, à deux adultes, on va peut-être visiter un musée, avec un enfant de 3 ans, c'est le genre de visite, c'est impossible, vous allez faire des choses différentes, peut-être être plus dans la rue.
Non, on essayait quand même de faire, on essayait toujours de faire quelque chose, alors pas forcément artistique, parce que c'est pas, peut-être pas aussi notre, comment dire, c'est pas ce qu'on regarde peut-être le plus, mais on a toujours fait le musée des technologies
vous intéressez quand même à la
on faisait toujours,
aux éléments culturels,
on visitait toujours quelque chose, on allait des muséums d'histoire naturelle, mmh. énormément, ça on les cherchait pas
au Canada, oui, on en a fait quelques-uns. Mmh. À Ottawa, c'était le musée
de l'homme.
Au Canada. Mmh.
On cherchait des...
Mais bon, sur l'Australie, le fil conducteur, Timéo, tu pourrais nous dire les animaux
Qu'est-ce que tu as vu, Timéo, comme animaux en Australie? Ah, il faudrait que tu te rapproches un petit peu du micro.
On a fait des recherches de quoi? On était à la recherche de quels animaux?
Du cassoar.
Cassoar, oui. Ouais. C'était quoi le cassoar? C'est un gros, un petit, un insecte?
Une sorte d'autruche un peu plus petite.
Gros. D'accord. Je suppose que tu as vu des kangourous. Je suis désolée, je suis dans les clichés, mais tu as vu des kangourous là-bas?
Oui, ouais. Et des koalas.
Ah oui.
Qui ne sont pas faciles à trouver, ces petits koalas. Ouais. Et puis, on avait aussi été voir un animal qui est endémique là-bas, qui vit que là-bas. Mmh. Tu te rappelles? Dans les ruisseaux. Tu te rappelles pas? C'est l'ornithorynque.
Ah ouais.
Ça vit que là-bas.
Et d'accord.
Ah oui.
Donc, voilà, on avait... l'échidné, c'était pas trop la région, je crois. Donc voilà, on essaye. Et puis en fait, tout est un peu énorme. Donc en fait, même une sauterelle, c'est un événement en soi.
C'est proportionnel à l'Australie, voilà. Ouais, d'accord.
Les crapauds, les grenouilles, c'est pareil, c'est dément.
C'est des bœufs.
Voilà, les oiseaux sont de toutes les couleurs.
C'est des pélicans partout.
Ouais, il y a vraiment...
On était à la recherche aussi des crocodiles.
Ah oui, d'accord.
Ah bah oui, c'est vrai.
Ouais. Ouais.
Crocodiles.
Vous avez vu des crocodiles, Timéo? T'as vu des crocodiles en Australie?
Que dans des eaux, j'en ai vu.
Que dans des eaux, oui. D'accord.
Par contre, quand on a fait la recherche du crocodile, c'était quoi un petit peu l'histoire un peu rigolote? Le conducteur du bateau.
Ah, il y a une anecdote là sur le feu.
Sur le crocodile, c'était...
Timéo, tu nous racontes?
Tu te souviens?
Tu te rappelles?
Du monsieur qui...
C'est peut-être le studio de radio qui l'impressionne,
je crois,
un peu, qui bloque les souvenirs.
D'habitude, il se rappelle bien. Ouais.
Oui, il se rappelle. En fait, pour sur l'anecdote, le conducteur du bateau qui nous a emmenés pour rechercher des crocodiles avait perdu une jambe, donc il avait une jambe de bois, mais une vraie jambe de bois de pirate, quoi. Donc, il disait à qui voulait l'entendre que c'était un crocodile.
Un crocodile qui lui avait mangé, forcément.
Donc l'histoire était très, très intéressante.
Ouais.
Et bon, on n'a pas vu de crocodile, mais c'était la saison, non, c'était la saison humide. C'était, c'était déjà annoncé, ils nous l'avaient un peu dit qu'il y avait
mais
certainement
pas
de crocodile, mais c'était le, la balade qui était très belle. En fait, il y avait une belle balade à faire.
Sur un fleuve, du coup,
ouais, c'était un petit une rivière qui après se prolongeait en fleuve. Oui, c'était.
D'accord. Et alors là, c'était votre quête un petit peu faunistique, mais je crois savoir que vous avez, pour rencontrer des gens, vous aviez un vecteur, alors que je pensais être votre fil rouge, mais qui ne l'était pas. C'est que, bon, pour les gens qui ne vous connaissent pas, vous êtes des grands joueurs d'Ultimate, vous faites partie du club des Frisgos, le club blésois d'Ultimate Frisbee. Et votre voyage a été ponctué de rencontres, il me semble, avec des clubs de frisbee.
Alors ça, c'était plus pour les grands, hein, mais on a quand même réussi, peut-être à part en Asie, mais on a réussi à quand même faire pas faire des entraînements ou en tout cas des rencontres avec des clubs locaux. Donc ça, c'était intéressant. On a gardé contact d'ailleurs avec des joueurs, dont un qui est venu s'installer en France et qui nous avait d'ailleurs hébergés.
En Australie.
Ouais. Oui, parce que c'est quand même un sport anglo-saxon. Oui. Donc vous étiez vraiment sur
Canada-Australie.
Canada-Australie, voilà les terres.
Des nations fortes en ultimate.
Oui, ouais, 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 c'est ça.
Nombreux clubs, beaucoup de joueurs. Et
donc vous avez pu vous entraîner avec eux ?
Oui, ouais, on a eu
quelques entraînements. On a fait avec des clubs au Canada. On a dû faire quatre entraînements. Alors c'était vrai que c'est l'occasion de rencontrer en plus du monde.
Mais hein, c'est un vecteur.
Comme il n'y a pas trop de marchés dans tous les endroits quand on passait en Australie ou au Canada, c'était aussi l'occasion de pouvoir échanger avec même des familles puisqu'il y avait des enfants et ça a été vraiment des petits moments différents sur
puis eux ça devait être vous aviez pris contact en amont ou c'était sur place
Non, c'était sur place, alors pareil internet. Facebook
et il devait être surpris justement d'avoir une famille française qui les contacte, non c'était
les joueurs d'Ultimate ils voyagent par le frisbee, je pense que ça ils voyagent un peu, on avait quand même pas mal de gens qui avaient qui étaient partis sur même des tournois un peu internationaux, donc et je dirais que le frisbee aussi ça nous a permis des fois aussi de créer des contacts, notamment la sortie et le fait de lancer en Asie notamment. On avait aussi ce contact-là.
Vous étiez partis avec vos frisbees.
Voilà,
ouais.
Donc c'était aussi. Alors il y avait le Uno, mais il y avait aussi le frisbee.
Qui est moins international quand même. Hein.
Oui, mais voilà, ça peut être.
La Birmanie n'est pas connue comme une haute nation d'Ultimate Frisbee.
Non, mais ils sont curieux. Ouais. Voilà, la curiosité de vouloir lancer et de jouer, c'était aussi un moyen des fois d'échanger ou d'amorcer une discussion ou un échange, c'était vraiment ça pouvait être aussi le frisbee pour le
coup. C'est ça, c'est un vrai vecteur, une vraie raison de rencontrer du monde, enfin voilà et alors du coup Timéo, t'as lancé des frisbees, t'as joué au frisbee un petit peu pendant ce voyage?
Oui, j'en ai fait un petit peu
avec des enfants aussi
en Birmanie je crois, avec deux filles.
D'accord. Ok. Et alors tout à l'heure, Déborah, donc ta maman disait que tu rencontrais des gens dans les parcs. Tu as fait des jolies rencontres comme ça de copains. Tu t'es fait des copains?
Beaucoup.
Ouais. Dans des pays plus que d'autres ou partout?
Surtout en Birmanie parce que y en a toutes les personnes voulaient jouer avec nous, avec tous les jouets qu'on avait.
Ah oui.
Les jouets, il n'y en avait pas. C'était quelques petits jeux. On avait emmené pas mal de petits jeux, mais on n'avait pas non plus des gros.
Non, mais qui n'étaient pas connus du coup en Birmanie qui attirait la curiosité, j'imagine.
Mais tu t'es fait même un copain au Canada, dans un parc. Et tu as été goûter, passer l'après-midi chez le copain.
Ah ouais, ça c'est une vraie rencontre. Mais alors tu parlais comment, Timéo, avec eux?
Français, je crois. Français parce qu'il parlait aussi un peu français.
Il parlait aussi un petit peu français. Et là-bas, vous avez appris des mots de thaïlandais, des mots de birman, des mots d'anglais?
Oui.
Ouais.
L'ananas.
Ouais.
C'est sapanai.
En quoi?
Thaïlandais.
En thaïlandais. Et alors justement, comment ça s'est passé? Parce que ce qu'on disait hors micro tout à l'heure pendant la pause, Timéo entré en CP, début de l'école obligatoire. Ça veut dire qu'il n'a pas fait sa rentrée officielle à l'école, non, puisque vous êtes parti le 31 août 2015. Comment ça se passe, comment dans ces cas-là?
Alors, nous, on avait un petit peu anticipé avec la maîtresse. Donc, on est dans un regroupement, un RPI. On a, donc, en fait, un niveau, une classe. Donc, on connaissait la maîtresse qui allait accueillir Timéo à la rentrée, enfin, qui devait accueillir Timéo à la rentrée en CP. Donc, on avait pris contact avec elle. Et en fait, elle nous a... Donc, on avait aussi contacté l'inspection académique pour les avertir de notre départ. Et donc, en fait, l'inspection académique a demandé à ce qu'il y ait un suivi de scolarité.
Bien sûr, ouais. Alors, sachant qu'on n'a pas précisé, vous êtes prof tous les deux.
Voilà. Donc, bon... Ça a aussi aidé un petit peu. Ils avaient, enfin, aidé dans le sens où ils avaient aussi confiance. Ça les a peut-être rassurés, j'en sais rien. Mais en tous les cas, ils ont contacté quand même l'école pour connaître aussi le niveau scolaire. Et puis, la maîtresse de Timéo nous a donné français, mathématiques, voilà, les lectures suivies. Et en fait, on communiquait beaucoup par mail. Oui. Et elle s'est aussi... elle a saisi l'occasion, elle aussi. Alors, on avait un blog, enfin, on a toujours d'ailleurs un blog, et on écrivait donc le mercredi matin. C'était l'époque de l'école, le mercredi matin. Et le mercredi matin, c'était lecture du blog de Timéo. Et puis, on a fait des petites conférences, des petites réunions Skype, en fait, avec l'école.
D'accord.
Donc, on a toujours gardé contact. Et puis, il a fait ses évaluations, il a fait...
Parce que le problème, c'est que quand on part comme ça, à quatre, à l'autre bout du monde, on n'emmène pas une tonne de bouquins et de cahiers. Donc, il faut voyager léger. Donc, là, Internet, du coup, change
c'est
un peu
ça.
La vie.
C'est ça. Donc, on avait juste le livret de maths et de français. Voilà. Après, les sciences, je pense que c'était au quotidien.
Ouais, c'est ça.
Voilà.
La géographie, probablement. C'est un autre éveil, en fait.
Voilà, c'est ça. C'est ce que les professeurs des écoles, nous ont tous, rassurés. C'est vrai qu'on était un petit peu anxieux là-dessus. On se disait, est-ce qu'on n'est pas aussi. Ils nous ont dit, mais vous allez voir que ça va se faire naturellement. Et puis, il n'était pas perdu en arrivant. Et puis
volontaire.
Et puis super volontaire. Ouais.
Et puis je suppose que du coup, tes copains de classe, Timéo, devaient être intéressés par ton voyage. Quand tu es revenu, ils ont dû te poser plein de questions.
Non, pas beaucoup. C'est plus les filles qui m'ont posé beaucoup de questions sur un peu tout.
Ça rend intéressant. Les mecs voyageaient. On le savait de toute façon que les garçons voyageurs, ça avait un pouvoir d'attraction phénoménal.
Alors c'est vrai qu'il n'a pas eu autant de questions auxquelles il s'attendait. Alors parce qu'on avait aussi beaucoup échangé et que les gens allaient sur le blog. Mais je crois qu'il a eu... Il avait envie de raconter tout ça. Et les gens, bon, une fois passé l'arrivée, le quotidien reprend son cours.
Ils sont passés à autre chose.
Et ils passent à autre chose. Et bon, au final, Timo, il est passé à autre chose aussi. Mmh. Mais c'est vrai qu'il... Les premières semaines, il nous disait, mais il ne me pose pas de questions. Ouais. Je ne comprends pas.
Lui, il avait vécu quelque chose d'extraordinaire pendant 6 mois.
Il n'osait pas trop aussi. Mmh. En parler de lui-même, il attendait un peu les questions et il était un peu, pas désarçonné, mais...
Oui, mais après, quand même, tous les 15 jours, il y avait un Skype et les élèves préparaient les questions. Et ça durait des fois une bonne heure, voire deux heures.
D'accord.
Et donc, chaque élève avait sa question pour Timéo. C'était un rendez-vous vraiment
important,
sympathique.
Hein. Et Vasco, je sais qu'on arrive au terme de cette interview.
Oui, parce que je vois que tu es partie, là,
Non, je regarde, je surveille. Non, Vasco avait 3 ans. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, il se souvient?
Alors c'était un peu... il est friand de revoir les photos. Vraiment, c'est peut-être de celui qui regarde le plus les photos. Mais il a des bribes. Non,
ouais, c'est ça, il était encore un peu petit pour imprimer.
Voilà, c'est ça. Donc je pense qu'il faut repartir pour réimprimer d'autres...
C'est ça.
Alors justement, c'est la question que j'allais vous poser. Est-ce que vous avez envie de repartir? Est-ce que ça vous démange ou est-ce que c'est même en prévision?
Mais on n'a pas toutes les données. D'accord. Mais en tout cas, ceux qui nous le demandent le plus, ce sont les enfants.
Ah oui.
Alors que arrivé à la fin du voyage, ils nous demandaient de rentrer.
Oui.
Et là, ils voulaient pas repartir.
Et là, ils disent, ah, on en repartirait bien. Et ils commencent à être exigeants, en plus.
Ah, en termes de destination.
C'est quoi, c'est mieux, les destinations?
Et alors, ce serait où?
Nouvelle-Zélande.
Voilà. Ah ouais, ça. D'accord. Voilà.
Okay. Ça, je pense que si t'aimes les tout petits animaux, là, tu vas te régaler, hein, là-bas. Si tu vas là-bas.
Donc, c'est, vous êtes en préparation d'un prochain périple?
On y pense de plus en plus, on va dire. Voilà.
D'accord. Mm. Si on veut revoir, j'imagine qu'il y a des photos, des textes sur votre blog. C'est quoi l'adresse?
C'est Freeze Go Tour. Et c'est sur, alors c'est sur l'hébergeur Overblog. Donc, je pense que si vous tapez Freeze Go Tour sur Google ou je ne sais quel moteur de recherche, je crois que ça tombe assez vite sur notre...
On mettra l'adresse à ce moment-là, vous nous la donnerez. Mmh. Et puis, on indiquera l'adresse sur la page Un œil ailleurs sur Studio Zef.
Et on a les deux voyages, en fait, sur le même blog. Donc
c'est,
ça
vous
s'enchaîne.
Aviez commencé ce blog en 2007.
C'est ça.
D'accord. Bon, bah alors pour tous les voyageurs immobiles,
ouais.
Allez rêver. Sur Freeze Go Tour,
on mettra les références sur le site. Ouais.
Merci
beaucoup
d'être venu nous et peut-être d'avoir donné envie de voyager avec des enfants, de se dire que c'est pas impossible,
pas du tout.
Que la vie ne s'arrête pas avec des enfants, paraît-il. Merci pour votre visite et bon voyage.
Merci.
Merci.
Voilà, c'est l'heure de la chronique musicale où on va parler rapidement, hein, parce qu'on n'a plus beaucoup le temps, d'Afrobeat. Voilà, donc alors on va commencer tout de suite par évoquer Fela Kuti, hein, évidemment. On dit que c'est le créateur, avec son batteur Tony Allen, le créateur du terme Afrobeat, qui puise ses racines, bien sûr, beaucoup plus loin... en Afrique, mais l'afrobeat devient très rapidement populaire au Nigeria grâce à ces deux musiciens. Donc Fela Kuti invente ce terme, interprété notamment par son groupe Africa 70 au début des années 70 justement. Alors l'afrobeat est fondé sur peu d'accords joués en boucle par des guitares, claviers, agrémentés de riffs de cuivre qui sont plutôt puissants et très mélodiques. Et c'est très très intimement lié au contexte politique et urbain dans lequel il a été créé. Alors comme les textes de Fela l'illustrent, c'est une forme de protestation contre la mainmise des politiciens corrompus, l'oligarchie en place, elle évoque le Nigeria et ses richesses, le mépris de la population et une volonté de changement social. Fela Kuti et sa famille subiront malheureusement les violences des militaires nigérians justement en raison de ses positions militantes. L'afrobeat a des représentants dans le monde entier, en France, en Angleterre, au Canada et j'en passe, et figure à l'affiche de nombreux festivals de jazz et de musique du monde. Le batteur, donc je disais tout à l'heure, à l'origine entre autres de l'afrobeat, c'est Tony Allen, qui se fait remarquer par des concerts de qualité, ainsi que deux des fils de Fela Kuti qui ont repris le flambeau, tout d'abord Femi Kuti, voilà, à peu près à partir de 2007, et le jeune Sun Kuti. Alors bien sûr, on peut aussi citer les artistes et groupes représentatifs du genre comme Antibalas, Simone D, Manu Dibongo, Ghetto Blaster, The Soul Jazz Orchestra et les sympathiques Frères Smith. Donc j'avais envie un petit peu de faire une petite parenthèse sur ce collectif de musiciens. Voilà, les Frères Smith, c'est un collectif de Parisiens de 11 musiciens spécialistes en groove et sonorités afrobeat, afrofunk et éthiopique. Ces musiciens arpentent les scènes françaises et européennes depuis plus de 10 ans, toujours avec la même énergie. Connu pour ses prestations scéniques explosives, donc après un premier opus salué par la critique, le groupe a sorti son deuxième album en 2015, Free to Go, après diverses collaborations avec des artistes tels que justement Tony Allen, l'artiste israélien Kutiman, Kokolo et la grande Mamani Keïta. Voilà, connecté à la diaspora afrobeat qui passe par le cofondateur Tony Allen, l'israélien Kutiman, les New-Yorkais de Kokolo, voilà. Africa 70, inspiré de toutes ces années-là, c'est les Frères Smith. Alors, je terminerai juste. Donc, ils ont sorti malheureusement que deux albums. Donc, un premier qui est sorti en 2011, qui s'appelle Contrebande Mentality, et où il y a donc en collaboration Tony Allen et Free to Go. C'est une autoproduction qui date de 2014, avec encore une fois la grande Mamani Keïta. Et voilà, on va se quitter avec les Frères Smith.
Très, très bien de terminer sur ces notes.
C'est sympa,
ouais,
hein.
Ça fait du bien.
En plus, allez voir, regardez, il y a quelques vidéos. Allez voir sur scène, c'est réjouissant, vraiment. On peut pas rester assis dans son canapé, c'est pas possible.
On chaloupe.
On chaloupe. Ils sont passés à la Guinguette il y a deux, trois ans. On les avait interviewés. Et c'est vraiment en plus des gens très ouverts et très sympathiques qui sont comment dire, c'est très précieux pour eux d'avoir leur indépendance. Donc c'est pour ça ils ont décidé de se mettre en autoproduction.
Ah, d'accord. Voilà.
Eh bien, on retrouvera cette émission en podcast sur le site de studiozef.fr. Merci à vous tous sur le plateau. Et puis, on se retrouve, on verra. Peut-être qu'il va y avoir des rediffusions.
Voilà, il y aura peut-être une pause pendant quelques temps.
Voilà, exactement. À très bientôt à la radio.